Sud Radio, il est 2h. Parlons vrai.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, votre rendez-vous consacré au savoir-faire français. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir des initiatives engagées qui pourraient d'ailleurs faciliter votre quotidien, que ce soit le ménage à domicile pour devenir ou bien pour devenir propriétaire plus facilement. Tout à l'heure, on vous parlera de la première application de nettoyage éthique et écologique pour les particuliers. L'idée étant de pouvoir offrir un service de nettoyage aussi simple et pratique que de commander un repas à emporter. Mais tout de suite, on va s'intéresser à cette solution de financement qui permet aux personnes n'ayant pas la possibilité d'obtenir un prêt bancaire pour acheter leur résidence principale et bien d'accéder à l'achat d'un bien tout de même. Notre premier invité est avec nous au micro de Sud Radio.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Adrien Sabi.
Bonjour Nathalie, merci beaucoup de me recevoir.
Ben, nous sommes ravis de vous recevoir à Sud Radio. Alors vous êtes l'un des fondateurs de Blockshare.
Exactement.
Une solution qui est un financement donc innovant pour l'acquisition d'une résidence principale. Alors déjà, c'est vrai qu'on évoque tous les jours ce marché de l'immobilier, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les rendez-vous plus classiques d'information. On en est où aujourd'hui? C'est toujours aussi compliqué d'acquérir un bien, d'obtenir un prêt bancaire.
Exactement. En fait, la clé, c'est l'obtention du prêt bancaire. On l'a vu, les taux ont remonté de manière assez brusque, ce qui a on a passé une longue période de taux très bas, donc les Français pouvaient très facilement acquérir des résidences principales. L'argent était même quasiment gratuit. Et là, en l'espace de 1 an et demi, les taux sont, durablement remontés. On a assisté à une légère baisse, nous on le constate auprès de nos partenaires, mais ils restent néanmoins extrêmement hauts, en plus de d'autres conditions qui, verrouillent un petit peu l'accès à l'emprunt.
Alors vous proposez, avec Blockshare, une solution innovante, c'est ce qu'on appelle l'immobilier fractionné, hein, c'est bien ça?
Exactement, tout à fait.
Donc on dit d'ailleurs que c'est une alternative finalement aux méthodes plus classiques.
Tout à fait, c'est complètement l'idée. En fait, initialement, on est une solution d'investissement qui permet au plus grand nombre d'investir très facilement d'une manière ultra intuitive dans l'immobilier.
Des 100 euros d'ailleurs, vous le dites sur votre site.
Des 100 euros, exactement. L'idée, c'était vraiment de démocratiser, de faire bénéficier de nos 12 ans d'expérience dans l'immobilier. On sait que ça demande des compétences assez diverses et variées. C'est pas forcément évident pour tout le monde de le faire. Et on a voulu mettre toutes ces compétences dans une plateforme très simple pour permettre à tout le monde d'investir dans l'immobilier. On a créé une première offre qui permettait à monsieur tout le monde d'investir dans des biens immobiliers, donc appartements, maisons ou immeubles qu'on avait sélectionnés. Important de le souligner aussi, tous nos projets immobiliers sont entièrement rénovés, donc on a aussi un axe, on participe à l'accélération de la rénovation du parc immobilier. Et on a créé effectivement très récemment cette deuxième offre qui permet à nos clients, en investissant sur des projets immobiliers, de faciliter l'accession à la propriété grâce à des partenaires.
Mais ça veut dire que je repère un bien qui me plaît sur le marché. Je n'ai pas la possibilité de faire mon apport n'est pas suffisant pour mon prêt bancaire. Donc si je fais appel à Blockshare, finalement, ça veut dire qu'on l'achète ensemble ce bien, c'est ça? C'est un bien commun, on est à plusieurs dessus?
Alors, c'est un tout petit peu différent. On va prendre un exemple très concret. Nathalie, vous repérez un appartement, pour faire simple, à 100 000 euros. La banque vous dit, je ne vous prête pas parce que vous venez de commencer à Sud Radio. Par exemple, vous êtes en période d'essai ou vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas 3 bilans, ou en fait, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles la banque ne va pas prêter. Il y a aussi, vous n'avez pas suffisamment d'apport. En fait, notre société, grâce à nos investisseurs, va se porter acquéreur à votre place de l'appartement. On va donc négocier le prix en plus avec des conditions plus avantageuses puisqu'on va acheter cash le bien.
Donc c'est vous qui êtes propriétaire du bien?
Tout à fait, pendant une période donnée. Et vous allez avoir jusqu'à 15 mois pour nous racheter en fait ce bien immobilier avec un prix un petit peu plus élevé qu'au départ, sachant qu'on aura négocié nous initialement avec le propriétaire. Et nous, ça nous permet de reverser une petite plus-value à nos investisseurs et de faciliter l'accession à la propriété. Là où la solution est particulièrement pertinente, c'est que pendant cette période où la personne va pouvoir nous racheter le bien, il peut occuper le logement gratuitement et au lieu de nous verser un loyer, il va pouvoir se constituer un apport qui lui permettra d'obtenir son emprunt plus facilement auprès de la banque.
Non, mais ce qui est terrible, c'est de se dire que des personnes refusées par les banques, donc considérées comme des personnes entre guillemets à risque par les banques, alors que les banques sont censées avoir les reins solides pour gérer ce type de ce genre de profil. Mais alors, vous arrivez à prendre ce risque. Alors comment vous y retrouvez? C'est-à-dire qu'en fait, les banques refusent ces profils alors que vous y voyez un marché.
Exactement. En fait, le prêt-relais était quelque chose d'assez courant en France. Il était très souvent utilisé pour des gens d'ailleurs qui étaient déjà propriétaires, qui voulaient racheter un logement. Il fallait attendre qu'ils vendent leur premier logement. Bon, il y avait tout un tas de configurations. Aujourd'hui, les banques sont devenues assez frileuses sur ce type d'emprunt, en fait, de prêt. Là où nous, on y voit un marché grâce notamment à des partenaires, c'est qu'on a, par exemple, plein de personnes qui ont, si je reprends l'exemple de l'appartement, 10 000 euros d'apport. La banque est prête à leur prêter au bout de 20 000 euros d'apport, donc il y a des fois un tout petit delta. En fait, c'est ce type de dossier aussi qu'on va privilégier, puisqu'ils sont à la fois très sécurisants pour nos investisseurs qui vont pouvoir espérer des gains entre 7 et 10% en moins de 12 mois, et à la fois il y a une utilité pour les autres clients qui peuvent accéder à un logement immédiatement, vivre dedans sans payer de loyer et accélérer en fait leur financement.
Alors justement, vous venez de le dire, c'est ce type de dossier qui va nous intéresser. Alors justement, quels sont les critères? Parce qu'il y a quand même une sélection pour pouvoir bénéficier de BlockShare.
Oui, exactement. En fait, on va faire une étude au travers de nos partenaires. On va réaliser une étude une étude financière pour voir le profil. Évidemment, on va prendre quand même des gens qui ont un minimum d'apport. On ne demande pas forcément d'avoir 15 ou 20 000 euros d'apport, mais déjà un minimum d'apport. Qui ont quand même une situation bancaire saine, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le rouge tous les mois. Voilà, il y a quand même, on a un équilibre entre rendre cette mission en fait d'accession à la propriété, mais tout en préservant quand même la sécurité de nos investisseurs. Donc, c'est une hygiène, une bonne hygiène bancaire, un petit peu d'apport et surtout une vraie motivation à acquérir le bien dans les 12 ou 15 mois.
Et je pense notamment à des profils comme les indépendants qui parfois ont du mal à se faire entendre auprès des banques et pourtant elles ont un salaire, ces personnes-là se versent un salaire depuis parfois plusieurs années, mais c'est vrai que les profils d'intermittents indépendants, pour l'avoir connu également, c'est jamais simple. Hein.
Exactement, en fait, on a parfois même des dossiers qui sont extrêmement surprenants, où vous avez des gens qui ont énormément d'apports, qui ont déjà été propriétaires d'un bien, mais le taux d'endettement est un peu trop élevé. Enfin, on a vraiment parfois on est même très surpris sur certains dossiers. Moi-même, étant chef d'entreprise, je me suis retrouvé aussi dans ce cas de figure-là. Donc, il y a un marché. Ce qui est intéressant, c'est que peu importe la conjoncture, que les taux soient à la hausse ou à la baisse, il y aura toujours un marché pour ce type de clients ou de profils. En ce moment, on a beaucoup de dossiers par manque d'apport. En fait, la banque cherche de plus en plus à sécuriser. Et donc, du coup, on a des profils qui, des fois, à 5 ou 10 000 euros près, ne peuvent pas emprunter pour des toutes petites sommes. Donc voilà, on rend cette mission accessible.
Voilà. Alors après, c'est un marché qui est très fluctuant. On a parlé. On n'est jamais à l'abri d'une crise dans l'immobilier. Justement, quels sont les risques, les garanties finalement de ce système-là pour celui qui va décider de rentrer dans le système BlockShare?
Alors, pour nos investisseurs, nous, le risque, en fait, tous les risques sont définis dès le départ. En réalité, le risque est quand même assez faible puisqu'on a un engagement contractuel avec le futur accédant pour qu'il puisse nous racheter le bien. Si le bien n'est pas racheté, alors là, on rentre un peu plus dans du technique, mais lorsqu'on va faire l'acquisition de ce bien, on va négocier directement avec le propriétaire ce qu'on appelle une clause de complément de prix, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui verser la totalité du prix. Probablement 85 ou 90% du prix. Et ces 10% restants seront versés si le futur accédant va nous racheter le bien. S'il ne nous rachète pas le bien, en fait, on va se retrouver avec un appartement ou une maison qu'on pourra nous remettre sur le marché, mais qu'on aura acheté entre 10 et 15% sous le prix du marché. Donc, finalement, le risque pour notre investisseur, c'est de ne pas faire de rentabilité ou d'avoir une rentabilité quasi nulle. Avec un gain potentiel, on va dire, entre 7 et 10% sur les opérations.
Et ces nouveaux, justement, principes sur la détention d'un contrat de partage dans un premier temps, comment c'est accepté? Est-ce que c'est plutôt les jeunes générations qui comprennent le principe?
Alors, c'est une très bonne question, Nathalie, merci de la poser. En fait, c'est toute l'innovation de notre système, elle réside dans ce contrat de partage de revenus. En fait, aujourd'hui, le fait d'être... Alors, nos clients, quand ils investissent, nos investisseurs ne sont pas propriétaires. En fait, ils détiennent ce contrat de partage de revenus qui nous permet en fait une grande flexibilité puisque en fait c'est tous les avantages de l'immobilier sans les inconvénients, c'est-à-dire qu'il possède le droit à percevoir des loyers, il possède également le droit à percevoir une plus-value, mais sans en être propriétaire. En fait, ça permet d'un point de vue fiscal une certaine optimisation. C'est pour ça aussi que dans nos clients, même si la solution est accessible dès 100 euros, on a de plus en plus de clients aguerris. Donc voilà, ce contrat il est plutôt bien perçu, y compris par des gens. On a à peu près 25% de nos clients qui ont plus de 50 ans. Et là, on a été un petit peu surpris, je dois vous l'avouer.
Merci beaucoup, Adrien Sabi. Alors, BlockShare existe depuis combien d'années ?
Ça va bientôt faire 3 ans.
3 ans. Ouais.
Voilà, exactement. Donc, on est 2 cofondateurs, Amaury Vurpio et moi-même. On est déjà une petite équipe de 10 personnes, donc on se développe tout doucement.
Voilà, une solution aux méthodes classiques et surtout à toutes ces personnes qui se voient parfois leur refuser un prêt bancaire pour vraiment, finalement, une petite somme manquante dans l'apport ou bien juste parce qu'on a un statut qui ne rassure pas les banques.
Exactement.
Merci beaucoup de nous avoir présenté Blockshare, Adrien Sabi. Et belle journée à vous.
Merci Nathalie, merci beaucoup.
On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec une autre solution innovante dans le secteur, cette fois-ci, du ménage rapide et écologique. A tout de suite.
Sud Radio Béziers.
102.6.
Sud Radio.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des uppercuts. Serveuse dans le diner à coup des pommes motel. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performer, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vous vous êtes là. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. C'est naturel, ça sonne comme une évidence. Il danse, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Il danse pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Il danse sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Il danse.
Métiers de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie présente.
Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On met en avant ce matin toutes ces initiatives engagées, des initiatives qui vont faciliter votre quotidien. Vous cherchez une solution de ménage rapide, écologique, parce que de façon régulière ou parce que vous avez prévu de déménager ou vous avez une idée très précise de ce que vous souhaitez faire nettoyer régulièrement chez vous, eh bien on va vous faire découvrir EcoClean On Demand qui se fait accessible à la carte. Et ça veut dire quoi concrètement? Eh bien on en parle tout de suite avec notre invitée Christelle Gimari.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Christelle.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes la fondatrice. Merci à vous d'être là au micro de Sud Radio. Vous êtes la fondatrice de EcoClean On Demand. On dit de vous que vous êtes une pionnière en matière de nettoyage écologique. Alors vous avez une société en France, également au Québec. Hein.
Oui, à Montréal, exactement.
Alors, expliquez-nous cette entreprise se distingue des autres modèles de sociétés classiques de ménage.
Alors déjà, il faut savoir qu'historiquement, la société EcoClean existe depuis 2005 et nous étions les premiers en fait à avoir importé des produits écologiques d'Allemagne et d'avoir dit que ça suffisait de cacher les gens, les invisibles, donc le travail se ferait 2 jours au milieu des autres gens qui travaillent aussi.
D'ailleurs, à des horaires corrects qui permettent aussi d'embaucher plus facilement.
D'embaucher plus facilement, certainement, mais surtout de permettre à nos cleaners d'avoir une vraie vie, parce que quand nous à 20h on termine et on est en train de dîner avec notre famille, bah eux aussi, je vois pas pourquoi ils en seraient privés. Et surtout, je ne voulais plus qu'il y ait des femmes sur des quais de métro isolés à 5h30 du matin.
Exactement, oui, bien sûr.
Voilà, donc ça c'est la partie historique. Et puis arrive le Covid, où là on se dit, oulalalala, c'est la
catastrophe. Le télétravail.
Voilà. Et en 24 heures, on perd tous nos clients, parce que tout le monde, toutes les entreprises sont fermées. Donc quand vous avez une grosse crise comme ça, bah, soit vous vous mettez sur votre canapé, ou vous mettez à pleurer, ce que j'ai fait pendant quelques heures, je l'avoue, et ou alors vous dites, bah, c'est l'occasion de pivoter. Et en fait, nous avions une idée en tête qui était de digitaliser nos services et de les mettre à la demande à des destinations des particuliers cette fois.
Parce qu'à l'origine, faut le dire, hein, vous avez été créé en même temps, enfin, pour la plateforme Airbnb, c'est ça? Donc, dans un premier temps, vous étiez vraiment initialement destiné aux 700 000
logements qui gère Airbnb en France, parce qu'il y avait une grosse contrainte de désinfection des appartements sur cette période, et il se trouve que nous avions des produits Covicide à barrière réactive, des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, ce que très peu d'entreprises de nettoyage détenaient. Donc du coup, la synergie s'est faite en disant, voilà, nous avons un projet de plateforme et vous avez la clientèle. Donc en 3 mois, on a monté cette plateforme qui s'appelle du coup EcoClean On Demand, et qui est vraiment, dans un premier temps, qui était destinée exclusivement à Airbnb, puis maintenant elle est destinée à tout le monde. Puis comme on a bien aimé l'histoire de faire du B2B2C, c'est-à-dire d'aller nouer des partenariats en fait avec des gros donneurs d'ordre, pour qu'après ils nous ruissellent en fait leurs particuliers, eh bien ça leur permet une expérience servicielle supplémentaire qu'ils offrent à leurs clients. Et nous, on permet à ces clients finaux d'obtenir l'agrément fiscal de abattement de 50% sur la facture.
Ah oui.
Donc grosso modo, quand vous êtes sur ma plateforme et que c'est 30 euros de l'heure, vous n'en payez réellement que 15 euros, puisque nous...
Ça sera défiscalisé.
C'est défiscalisé, et puis en plus maintenant, depuis quelques mois, nous faisons l'avance directe, immédiate, de crédit d'impôt. Donc quand vous allez sur la plateforme, et en quelques secondes, eh ben, vous cochez j'ai 3 chambres, un salon, une salle à manger et 3 toilettes, ça vous affiche en moins de 7 secondes le prix que vous allez payer, et ça vous
par rapport au temps, ça vous estimez le temps demandé pour nettoyer ce qui s'est affiché, quoi.
Fort de nos 19 ans d'expérience, effectivement, notre calculatrice est très précise, et à 99%, le temps qui vous est présenté correspondra au temps que nous passerons chez vous. Donc en quelques secondes, vous obtenez votre tarif, et seulement à l'issue de ça, bah, vous créez un compte et puis vous commandez. Alors la première fois, bah, c'est comme quand vous créez un compte sur n'importe quelle plateforme, ça prend quelques minutes, et puis la fois d'après, c'est en quelques secondes, parce que on a enregistré votre appartement, et puis bah, vous avez juste à déclencher votre paiement. Donc c'est quelques secondes. Voilà, c'est vraiment aussi rapide que de commander un taxi ou un plat cuisiné.
C'est pour ça qu'on dit de vous que vous êtes le Uber du nettoyage, parce qu'il y a aussi ce système de notation. Donc on peut noter, entre guillemets, la personne qui vient faire le ménage chez soi. C'est une manière aussi de pouvoir faire appel au meilleur, et puis d'avoir un retour vous aussi sur le travail qui a été effectué, j'imagine.
Alors moi par... J'ai bien provoqué en disant que EcoClean On Demand, c'est le Uber du nettoyage. Mais je rajoute toujours version B Corp, parce que nous sommes B Corp. Et l'idée, en fait, c'est quoi? C'est d'avoir pris le meilleur de la tech et du numérique, et le meilleur de l'expérience client et cleaner que nous avions. Et quand on mélange tout ça et qu'on secoue, et ben ça peut sortir un super outil qui, en réalité, il faut savoir que nos cleaners sont rémunérés 18 euros de l'heure, donc c'est le double de ce qui se pratique, et notamment... en non déclaré. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'inclusion. On va chercher des cleaners qui étaient dans ces métiers-là, mais pas forcément, donc ce qu'on appelle l'informel, pas forcément déclaré. Et nous, on les remet dans de l'emploi décent, pérenne et déclaré, via une formation interne. On ne demande pas ni leur CPF, ni rien du tout. La formation est dispensée en interne, en digital. Et on a pour habitude de dire, ton job te suit. Donc ça veut dire que si aujourd'hui j'ai envie, c'est géolocalisé, donc si aujourd'hui j'ai envie de travailler à Boulogne, je me géolocalise à Boulogne et je vais recevoir que des missions qui sont dans un rayon de 2 km.
Ah oui.
Si demain je vais aller voir mes parents en Normandie et que je dis, bah tiens, je vais leur payer le resto ce soir, je vais travailler le matin en me géolocalisant en Normandie, et pareil, j'aurai des missions uniquement de là où je me trouve.
Et là aussi, ça simplifie la vie au quotidien.
Alors, ça simplifie la vie au quotidien des cleaners.
Parce qu'on est plus flexible, en fait. On est moins figé.
Tout le monde est flexible, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que les mobilités, elles sont des deux côtés. Ouais. On a des clients qui ont leur résidence principale, et puis qui se disent, bah tiens, quand je suis dans ma résidence secondaire ou dans mon Airbnb, bah c'est très bien aussi de ne pas changer d'appli. Ce qui est pratique, par exemple, avec Uber, c'est quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, c'est toujours
la même application.
La même appli. Et ben nous, c'est pareil. où que vous soyez en France ou au Canada, enfin en tout cas au Québec, c'est toujours la même appli dans votre langue et dans votre devise. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le côté utilisateur, la simplicité. Et pour le côté cleaner, nous, on insiste beaucoup sur la notion de revalorisation salariale et surtout de complément de revenu. Il faut savoir que actuellement, il manque 396 euros aux Français pour ne plus jamais être à découvert. Et ben, ces 396 euros, vous les obtenez chez moi en travaillant 20 heures par mois. Donc pour les étudiants, ben, c'est génial parce que ils ne se connectent que lorsqu'ils n'ont pas de partiel, par exemple, ou parce qu'ils ont envie de travailler. Et surtout à l'endroit où il se trouve. Et pour les mamans isolées aussi. Mais j'ai mon enfant malade, bah, j'ai pas besoin d'appeler mon employeur pour dire mon enfant est malade, est-ce que je peux m'absenter ? Non, puisqu'en réalité, vous connectez que lorsque vous avez envie ou besoin de travailler.
Alors, on a le retour client grâce aux notes,
oui.
Mais c'est ce qui permet de vérifier que le travail était bien fait ou...
Alors, les notes, je vais revenir dessus. Comme Uber, vous ne choisissez pas la personne qui va intervenir chez vous. C'est mon algorithme qui dit le plus proche. La mission est envoyée à les 10 cleaners qui sont autour du lieu demandé. Le premier qui accepte la mission l'emporte. Et là, vous, quelques secondes avant, vous avez le prénom et la photo qui s'affichent de qui va débarquer chez vous. Je précise que les gens, nous avons tous les KYC de sécurité, leur casier judiciaire est vérifié et nous sommes plugués à toutes les préfectures de France pour éviter les gens, comme on a vu sur certaines plateformes, qui est un seul passeport qui fasse travailler 10 autres personnes. Voilà, donc ça, c'est vérifié, les gens sont formés et seulement après, ils peuvent arriver chez vous sur leur première mission. Vous n'obtenez pas leur note tout de suite, puisque nous, on part du principe que, contrairement à d'autres plateformes qui peuvent faire de la mise en relation, vous n'avez pas à choisir celui qui a que des 5 sur 5, parce que sinon, les autres ne pourraient jamais bosser. Donc vraiment, nous, il y a cette mission vraiment sociétale et d'inclusion, d'aller donner sa chance à tout le monde. Il se peut que le ménage soit mal fait, ça arrive, on ne va pas se mentir. Là, le client note très mal. Tout de suite, immédiatement, notre service client va appeler l'éco-cleaner, lui dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que le client peut aussi être de mauvaise foi.
Bien sûr.
Ou mal luné.
Ou très maniaque.
Voilà, ou très maniaque, ou une incompréhension. Une fois que ça s'est éludé, en général, c'est quand même le client qui a raison, on renvoie en formation l'éco-cleaner, et là, on lui dit, voilà, bah là, maintenant, normalement, ça devrait bien se passer. 9 fois sur 10, ça se passe très bien. Il y a des échecs. Et là, on l'invite peut-être à changer de métier, d'orientation.
Voilà. Tout
mais
simplement.
Il n'y a pas de sanction, en tout cas.
Dernière petite question. EcoClean, vous le disiez, donc, couvre toute la France, mais il faut avoir donc des personnes qui font partie de l'équipe de nettoyage d'EcoClean. Vous êtes pour l'instant surtout sur l'île de France ou vous êtes déjà. Quelles sont les régions à date vous avez le plus justement de salariés aujourd'hui ?
Alors, à date, il y a 3000 éco-cleaners répartis sur toute la France.
Oui.
Et en fait, on s'aperçoit quand on regarde le mapping que c'est toute la côte. C'est-à-dire qu'au milieu, il n'y a rien. C'est la diagonale du vide, hein, mais ça, elle est commune à beaucoup de métiers. Mais en tout cas, toutes les grandes agglomérations, évidemment. Et après, toutes les côtes, mais qu'elles soient côte des Alpes, côte frontalière, etc. Enfin, vraiment.
Les maisons secondaires ?
Oui, alors. Je pense. Mais après, on a aussi beaucoup, beaucoup dans les grandes agglomérations, des gens qui, par flemme ou par envie de se faire plaisir, vont commander ponctuellement un éco-cleaner pour leur appartement ou résidence principale. Oui, effectivement.
Merci beaucoup, Christelle Gimaret, de nous avoir présenté cette solution innovante dans le nettoyage écologique et engagement RSE. Il y a aussi toute cette partie-là qui est importante pour l'entreprise. Merci beaucoup. Donc, vous êtes la fondatrice de EcoClean On Demand. Belle journée à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
Il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Cette semaine, Thibaut, vous étiez en pays catalan.
Et oui, Nathalie, je me suis baladé au pied du massif des Alberts, à Saint-André, à deux pas d'Argelès-sur-Mer. J'ai rendu visite à Jérôme et Johan, deux artisans brasseurs qui travaillent en bio et en circuit court. Ils ont monté une très belle entreprise, la Cagna, qui se prononce aussi la Cagne, la bière en catalan. Une bière unique dont toutes les matières premières proviennent de la région. Jérôme Fatch, l'un des deux fondateurs, nous raconte comment l'aventure a commencé.
On s'est installé avec mon associé pour créer une brasserie-distillerie faite à partir de matières premières de la région, donc en économie circulaire, puisque même les matières sèches proviennent de notre département au maximum, en fait.
Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont ces matières premières? Je crois qu'il y a le houblon, le malt.
Tout à fait. Donc le houblon qu'on produit, nous, sur une partie pour sur Al-sur-Tech, l'orge, donc tout ce qui est céréales, qui provient aussi d'Occitanie, sur les deux malteries. Et après, donc l'eau qui est l'eau du réseau, en fait, de chez nous.
Est-ce que c'est compliqué de monter une boîte ex nihilo comme ça? Je crois que la boîte a 8 ans. Oui. À quelles difficultés vous avez été confronté?
Alors nous, quand on a voulu s'installer, on a fait appel à la... On a été aidé par la Chambre des métiers qui nous accompagnait pendant 3 ans et qui nous a suivis après sur des formations de stage. Donc le plus dur, disons, c'est l'accompagnement sur tout ce qui est montage financier. C'est là-dessus, parce qu'en fait, quand on a créé l'entreprise il y a 8 ans, vous partez entre guillemets de zéro, donc il faut leur faire le plan, le budget provisionnel et tout le reste. Et là-dessus, la Chambre nous a aidés pour que les banques puissent en fait nous suivre. C'est le plus compliqué. Après, c'est un travail de longue haleine de tous les jours. Et surtout actuellement, après la crise de Covid, c'est chaque année est différent. Chaque année, il faut se réinventer, il faut trouver une façon de vendre, une façon d'exister avec des nouveaux produits. C'est pour ça qu'on s'est diversifié, nous aussi, sur tout ce qui est distillerie, pour pouvoir, en fait, toujours que l'acheteur ou le visiteur ait quelque chose de nouveau.
On ne se rend pas compte de toutes les difficultés liées au démarrage d'une entreprise. C'est important d'être accompagné. Sinon, Jérôme nous a dit qu'il cherchait sans cesse à proposer quelque chose de nouveau. Alors, de quelle manière il se réinvente chaque année ?
Eh bien, tout en gardant une gamme classique, ils produisent des produits éphémères, selon les saisons, selon les envies. Et pendant ma visite, ils étaient justement en pleine préparation de nouveaux produits pour l'été. Mais je ne peux pas vous en dire plus, ce sera une surprise. Ce qui change pas, c'est le caractère artisanal de la brasserie et de la production. J'ai justement demandé à Jérôme de m'expliquer ce qui fait de la Cagne une brasserie artisanale.
Le volume qu'on fabrique sur l'année, puisque nous on est sur des petits volumes, on fait à peu près 1000 hectos, est-ce qu'on veut rester là-dessus pour pouvoir maîtriser? Et après, c'est tout la relation client, le travail qu'on voit, parce que nous on fait tout, on est trois, donc deux gérants et Véronique, la commerciale, on n'est que trois à travailler dessus. On est sur quelque chose qui est très petit, quoi, en fait. On a un contact client avec les fournisseurs aussi qui est présent.
Ici, on est dans l'atelier. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les grandes étapes de fabrication de la bière?
Oui.
Allez, je vous suis.
Allez, si vous voulez.
Et on commente au passage.
Donc, du coup, vous allez avoir une salle à brasser où on va voir, disons, l'étape primordiale qui va être l'empattage, où on va mélanger l'eau avec la céréale. Lors de cette étape, on va retirer le sucre. Donc, c'est où ça va se passer. Après, on va avoir une étape de filtration, où on va séparer le jus de la céréale, une étape cuisson où on mettra le houblonnage, et la cuisson, après, on partira dans des cuves de fermentation où la bière sera levurée et elle fermentera, où l'alcool, où le sucre se transformera en fait en alcool. Et après, on aura une étape de garde entre 2 et 4 semaines, en fait, ça dépend ce qu'on veut faire. Nous, on est sur des étapes de garde longues, on est jusqu'à 6 semaines en fait de garde en cuve.
Et pour vous, quelle est l'étape clé, vraiment l'étape qui va faire la qualité de la bière, qui va définir son arôme?
Il y aura deux étapes, moi je pense, c'est l'étape d'empattage où on va choisir la matière première, les types de malt qu'on veut en fonction de la bière qu'on veut. Et après, on va voir l'étape au niveau de la fermentation, de l'affinage, où on va pouvoir en fait suivre la bière, où elle partira d'une bière verte à une bière en fait où les arômes seront équilibrés, en fait, on pourra la suivre là-dessus aussi.
Et je crois que cette entreprise se visite, Thibault.
Bah absolument, il y a une visite tous les samedis, c'est à 17h, c'est de mai à septembre. Et tous les renseignements sont sur brasserielacagna.fr. Alors brasserie Lacagna tout attaché, Lacagna c'est avec un Y, C-A-N-Y-A. Il y a bien sûr un moment de dégustation avec modération, bien sûr.
Bien évidemment.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
C'est bien de le rappeler, Thibault. Merci beaucoup pour cette visite.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien.
Écoutez Sud Radio Nantes en DAB+.
Sud Radio. Sorti mon plus beau bas, je me suis oublié trop de fois. Quand vient le il avant le moi, ce soir je me fais.
soir je me fais la belle. Loin de tout ça, je me ferai d'être belle. Rien que pour moi, ce soir je me fais la belle. Loin de tout ça, je me ferai d'être belle. Rien que pour moi. Ce soir.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, le numérique pour tous. Vanessa Pérez.
Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. C'est aujourd'hui une émission spéciale Afrique et numérique où vous allez découvrir comment l'Afrique a de très belles histoires à nous partager en termes d'innovation. En effet, on vous fera voyager pour découvrir les innovations les plus futuristes venant de ce continent. Vous rentrerez dans l'univers des festivals mêlant tradition africaine et modernité du métaverse. Et enfin, on vous expliquera comment les jeunes femmes se forment dans les villages africains les plus reculés afin d'acquérir une autonomie professionnelle. Le numérique pour tous spécial Afrique et numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir le président de Orange Moyen-Orient et Afrique, Orange l'opérateur télécom que nous connaissons tous, Jérôme Hennick. Bonjour.
Bonjour Vanessa.
J'ai bien prononcé votre nom ?
C'est ça, mais je suis directeur général, pas président.
Très bien, c'est important de le préciser. Avant de commencer, comment se porte le marché de l'innovation en Afrique ? Une question bien générale, mais déjà pour faire cette transition et voyager.
Alors globalement, il se porte bien et la scène tech africaine est bouillonnante, comme vous le disiez, avec plein d'idées et plein d'innovations. Surtout, c'est ça qu'il faut mettre en avant, des entrepreneurs de qualité. Et puis l'investissement se tourne maintenant vers l'Afrique, même si en 2023, il a reculé. Hein, c'est 3,5 milliards de dollars investis par les fonds dans les startups en Afrique. C'est en baisse de 46%. C'est la même chose en Europe, c'est la même chose aux États-Unis, mais si on prend une tendance plus longue, sur 10 ans, cet investissement c'est 20 milliards de dollars et les deux tiers au cours des 3 dernières années. Donc la scène tech africaine est pleine de vie et attire maintenant les financements, ce qui est nouveau.
Alors concrètement, les grands pays qui sont des pays innovants, on va dire, les plus innovants.
Alors ceux qui ont le plus de start-up et que ceux qui attirent le plus les financements, c'est évidemment les grandes économies africaines. On va retrouver l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, mais on voit des pays francophones maintenant tirer leur épingle du jeu. Le Maroc arrive en cinquième position, on a la Tunisie, on a la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui sont dans le top 10 maintenant, des investisseurs, des start-up ciblés par les investisseurs en Afrique.
Jérôme, pour des raisons économiques, culturel et surtout géographique. Quels sont les véritables enjeux de ces startups en Afrique, si on peut les classer ?
Alors, premier enjeu, c'est d'accéder aux infrastructures numériques. Hein. Il faut avoir évidemment un accès à Internet. C'est pas le cas partout en Afrique subsaharienne. À peu près la moitié de la population n'a pas encore d'accès à haut débit. Donc, ça, c'est notre rôle d'opérateur, hein, de couvrir, y compris les zones les plus reculées. Mais ils ont aussi une grande chance parce que le saut technologique avec l'arrivée des smartphones massivement en Afrique et puis du paiement mobile aussi, leur permet finalement d'avoir un écosystème favorable à développer des services digitaux qui vont venir s'appuyer sur la connectivité et sur le paiement. Mais leur premier enjeu, c'est l'accès aux infrastructures numériques. Le deuxième, c'est probablement l'accompagnement et la formation. Avoir, et je crois que vous recevez Seyna qui fait beaucoup de choses dans le domaine de la formation digitale, c'est d'accéder aux bonnes compétences, en particulier en matière de codage. Et puis le troisième, c'est le financement. Et ce financement, même s'il explose maintenant en Afrique, s'y croit très fortement, notamment en Afrique francophone. Hein, c'est 15% de croissance des financements en Afrique francophone entre 2022 et 2023. Ça reste 1% du total des financements des startups mondiales. Donc il y a encore beaucoup à faire.
Mais Jérôme, un entrepreneur africain, comment pense-t-il son développement ? Est-ce qu'il pense à l'échelle de son pays, à l'échelle du continent, au niveau international ? Quelle est la culture ?
En général, et les plus celles qui rencontrent le plus de succès, on en a mis quelques-unes en avant dans l'ouvrage qu'on vient de publier pour présenter 7 start-up qui sont des rôles modèles dans ce domaine.
African Digital Champion, je tiens à préciser le titre, si vous voulez vous le procurer.
En fait, elles s'attaquent à des besoins du quotidien. Ce qu'elles ont tout en commun, c'est de bien connaître et bien comprendre leur marché, et notamment les besoins des populations des entreprises africaines auxquelles elles doivent répondre. Et c'est d'abord leur marché domestique qui les intéresse. Mais ensuite, elles vont chercher à s'exporter. Et l'intérêt d'un continent d'1,3 milliard d'habitants, c'est que ça fait un marché à l'échelle continentale qui est extrêmement intéressant pour eux. La plupart d'entre elles s'exportent assez vite au-delà de leurs frontières.
Alors faites-nous rêver, partagez-nous quelques innovations vraiment spectaculaires qui sont une bonne leçon, on va dire, pour notre continent européen.
Il y en a beaucoup. Celles qui attirent le plus de financement en ce moment, ce sont ce qu'on appelle les fintech, parce que le paiement mobile, les transferts d'argent sur mobile, c'est déjà de l'histoire ancienne en Afrique. Hein, ça fait 15 ans que ça existe. Pour Orange Money, c'est 30 millions d'utilisateurs tous les jours qui utilisent leur porte-monnaie mobile. Et donc, autour de ces services financiers mobiles, on a tout un tas de start-up comme Julia qui s'est lancée en Côte d'Ivoire et qui propose des services financiers mobiles pour les petites entreprises. Et quand je disais qu'elles adressent surtout les besoins du quotidien, elles s'attaquent à des problèmes environnementaux clés comme la sécheresse, hein, le stress hydrique comme on appelle ça. Vous prenez une start-up tunisienne comme Cumulus qui a décidé de transformer l'humidité de l'air en eau potable avec une machine qui fournit 30 litres d'eau potable par jour pour donner accès, y compris à des villages reculés, à de l'eau potable. C'est formidable. D'autres comme Dabadoc au Maroc s'attaquent à la question de la santé, de la e-santé, c'est-à-dire permettre à des populations de pouvoir faire de la téléconsultation même quand elles sont dans des zones rurales, en ayant accès à des spécialistes qui sont en ville. Le domaine de la formation et notamment de la formation au numérique, qui est un enjeu clé sur le continent. Donc elles relèvent toutes des challenges qui semblent des challenges énormes, qui répondent aux principaux enjeux du continent. On pourrait parler de l'agriculture aussi, hein. Vous prenez une start-up comme Brasthorn au Botswana, elle permet aux agriculteurs de savoir quand est-ce que c'est le bon moment de semer, de moissonner, sur quel marché vendre leurs produits au meilleur prix, et donc elles fournissent des services qui, pour chacun des tissus économiques du pays, vont rendre des services incommensurables.
Jérôme, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ici en Europe actuellement. Est-ce qu'il y a cette même frénésie en Afrique, ou alors l'approche est différente?
Non, ça, il y a à la fois le même impact sur l'ensemble des services, sur l'ensemble des domaines économique des pays. Et puis, il y a des startups qui se lancent dans l'IA. Instadip, par exemple, en Tunisie, est une des startups qui a fait les plus grosses levées de fonds avant d'être rachetée par le géant des biotechnologies qui s'appelle BioNTech, avec des modèles d'IA tout à fait comparables à ceux qu'on peut trouver aux États-Unis. Donc, on a des entreprises très, très pointues. Et puis, l'IA vient bouleverser tous les secteurs d'activité. On parlait tout à l'heure de l'agriculture. On a maintenant des start-up, par exemple au Kenya, qui permettent de détecter les maladies du manioc avant qu'elles ne surviennent, avec des modèles d'IA dédiés. C'est 28 000 agriculteurs au Kenya qui utilisent cette solution-là. On en a dans le domaine des mines, qui sont des ressources importantes, évidemment, vous le savez, en Afrique, qui permettent de mieux comprendre comment exploiter et comment exploiter de façon plus durable les mines en Afrique. On a des start-up finalement dans l'ensemble de ces domaines qui vont utiliser l'IA pour accélérer la transformation digitale du continent.
Jérôme, en une poignée de secondes, vous le disiez tout à l'heure, l'accès à la data dans certains villages reculés est compliqué. Comment on fait pour y remédier? Est-ce que le gouvernement aide justement à établir cette liaison avec le dernier kilomètre? Comment ça se passe?
C'est une préoccupation commune des acteurs privés et des gouvernements dans les pays. Nous, on a un programme emblématique qui s'appelle les Orange Digital Center, où on forme et on a formé en 2023 un million de bénéficiaires, principalement au codage, et puis on accompagne les startups. On a accompagné 228 startups dans nos ODC, des phases d'incubation jusqu'au financement. Et il faut ne pas se concentrer uniquement dans les grandes villes. On en a 16 dans des grandes capitales africaines, mais on en a 22 en zone rurale. On appelle ça les ODC clubs. Et ça, on le fait en partenariat avec plus de 200 universités en Afrique. C'est très important parce que, on le disait tout à l'heure, cette fracture numérique, elle existe peut-être encore plus en Afrique qu'en Europe. Il faut pouvoir y remédier en mettant les moyens, nous, acteurs privés, aux côtés des pouvoirs publics. C'est aussi la question de l'inclusion des femmes derrière ça. Hein. Et on s'enorgueillit d'avoir une discrimination positive dans nos Orange Digital Center, parce qu'on a eu 51% de femmes bénéficiaires de ces formations gratuites et de cet accompagnement en 2023.
Merci beaucoup Jérôme Hénic, directeur général de Orange Afrique Moyen-Orient. Restez avec nous, on marque une courte pause et l'on se retrouve pour vous faire rentrer dans la magie des festivals mêlant tradition et modernité numérique. Vous découvrirez aussi une toute jeune start-up malgache qui permet de se former et de gagner de l'argent grâce au numérique. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Sud Radio Rodez.
104.4.
Sud Radio.
Ensemble on est devenu grand. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour. On s'apprivoise au jour le jour. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures. N'était pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, ni comment j'aurais pu faire face. Pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences.
Le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Et dans ce numéro spécial Afrique et numérique, j'ai le plaisir d'accueillir notre deuxième invité. Il est expert des musiques et des industries culturelles de la diaspora africaine depuis 20 ans. Il initie et dirige de nombreux projets en France et dans plusieurs pays africains. Alain Bidjek, bonjour. On est ravis de vous avoir entre vos différents et multiples voyages parmi nous aujourd'hui. Vous êtes donc président et fondateur du Moka. Expliquez-nous cette belle aventure du Moka, en quoi ça consiste.
Bah écoutez, le Moka est né de mes 20 ans d'expérience dans les industries culturelles et créatives. Donc on a lancé le Moka il y a 8 ans. C'est une plateforme d'innovation dédiée aux industries culturelles et créatives avec une particularité, c'est l'écosystème Afrique et diaspora.
Donc depuis 2016 effectivement, et vous faites donc la promotion de la créativité et de l'entrepreneuriat culturel et vous favorisez justement l'accès à l'emploi aux métiers culturels
culturel. Expliquez-nous qui ça concerne et comment, comment on peut y adhérer.
Bah déjà, à travers le MOCA, en fait, c'est un réseau d'artistes, d'entrepreneurs de la culture, d'organisations professionnelles et d'institutions qui organisent un peu le métier en termes de législation. Et puis, en fait, en travaillant avec tout cet écosystème, finalement, on a identifié depuis une dizaine d'années les besoins des acteurs, parce qu'on est quand même dans un secteur qui monte, qui explose, parce que les industries culturelles en France, c'est 4% du PIB, en Afrique, c'est 1% et quelques, ça représente à peu près 50 millions d'emplois dans le monde, 2 millions, 3 millions d'emplois en Afrique. Donc c'est un secteur qui est en train de monter. Pourquoi ? D'autant que aujourd'hui, grâce au numérique, comme on en parle aujourd'hui, grâce au numérique, en fait, la musique se diffuse depuis le continent vers le monde entier. Le cinéma se diffuse dans le monde entier. Donc on voit le succès de Nollywood, on voit le succès de l'Afrobeat.
Nollywood, Nollywood, c'est le Hollywood du Nigeria,
exactement.
En fait.
Exactement. Nollywood, c'est le troisième pays producteur de films.
Exactement. C'est bien ça.
C'est le troisième cinéma en termes de production de films dans le monde. C'est plus de 2500 films par an. C'est plus de 600 millions de revenus en 2021. Enfin, c'est énorme. C'est quasiment 1 million d'emplois. Enfin, on n'imagine pas à quel point ce mouvement, en fait, porté par des producteur indépendant est devenu quelque chose de phénoménal. Et donc, il y a un vrai enjeu d'emploi. Et c'est dans ce sens-là que nous aussi, à travers le MOCA, on a commencé à regarder finalement cette jeunesse qui est africaine, qui est là, qui représente 60% de la population. On a regardé, on s'est dit, mais en fait, il faut faire quelque chose. Ils adorent la culture, ils adorent la musique, le cinéma, les jeux vidéo, la réalité virtuelle aujourd'hui. Ben, en fait, il faut proposer des outils pour leur permettre de rentrer dans ces métiers.
Donc, le MOCA, c'est un festival ambulant, on va dire, et vous permettez à des jeunes de venir et de se former avec un dispositif très particulier, justement, qui va permettre de se former en réalité virtuelle.
Aussi, oui. Bah, en fait, le MOCA, effectivement, est né à Paris et aujourd'hui circule dans l'ensemble des différentes capitales africaines.
Lesquelles ? Faites-nous un peu voyager.
Aujourd'hui, on a fait Kigali, on est au Rwanda il y a 2 ans, on revient tout juste de Rabat l'année dernière, donc au Maroc, et puis là, cette année, on fait une entorse, on va à Londres, et puis on revient à Kinshasa en 2025. Ouais. Et donc, à travers le MOCA, finalement, c'est leur permettre déjà de rencontrer des professionnels, d'écouter, de partager des expériences avec des rôles modèles, et puis bien entendu, autour du MOCA, on a construit un laboratoire de création qui mêle créativité, danse, musique, art visuel entre des créateurs internationaux de la diaspora et aussi du continent. Donc finalement, on essaie d'emmener aussi des nouvelles écritures à travers cet outil-là. Et puis, du MOCA est né un enfant, on va dire, l'année dernière, donc, qui s'appelle Immersio, qui est une application de réalité virtuelle qui, justement, permet aux jeunes, non pas simplement de contempler les professionnels qui parlent, mais de découvrir ces métiers et puis d'aller plus loin et de les former par la suite à l'issue du MOCA.
Donc vous identifiez une quarantaine de jeunes dans chacun des pays et donc là ils vont avoir accès à un cursus en fait où vous utilisez Immersio, ce système de réalité augmentée, et ce cursus leur donne une formation
Comment ça se passe ? Effectivement, on identifie on travaille avec aussi bien les établissements scolaires que les festivals. En tout cas en Afrique, on travaille beaucoup avec les festivals puisqu'ils agrègent des réseaux de créateurs et généralement on fait des sessions entre 20 à 40 personnes. Donc on a deux formules. Il y a pour ceux qui veulent découvrir les métiers, ça c'est des formations courtes, ça dure quelques heures, mais pour ceux qui veulent véritablement rentrer dans un métier, que ce soit les métiers du son, de la lumière, les métiers techniques généralement du spectacle aujourd'hui, puisque ce sont les premières briques qu'on a développées, pour ces métiers-là, on peut aller sur des cursus de 15 jours. Donc après, je dirais sur la version plus augmentée, ça peut aller jusqu'à 6 mois, parce qu'on intègre à ça une formation professionnelle avec un stage. Donc, ce qui permet aux jeunes qui a découvert Immersio, qui se fait accompagner en formation avec des experts et qui va maintenant, à travers notre module, rentrer dans un stage à côté d'un professionnel qui devient son mentor par la même.
Très bien. Alors, vous intervenez également en France. Hein. Comment on peut adhérer à vos formations et qui est éligible ?
En France, c'est très particulier parce qu'en fait, sur la France, comme tout est très bien organisé, on travaille avec les collèges, on travaille avec les lycées, on travaille avec les universités, on travaille avec les missions locales. Donc c'est très 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 structuré de ce côté-là. On n'a pas besoin de beaucoup d'aller chercher le public. Généralement, les missions locales nous contactent. Eux, pour le coup, ont des jeunes qui ont décroché, qui savent plus où aller.
Et finalement, africains ou non,
En France, voilà, il n'y a pas de limite.
D'accord.
En Afrique, parce qu'il y a des enjeux de formation,
bien sûr.
En France, finalement, il y a un enjeu parce que la jeunesse, en fait, malgré toutes les propositions, en fait, ils sont perdus, ils savent pas où aller. Et à travers une expérience de réalité virtuelle, leur permet de dire, ils ont une passion, ils aiment l'art, ils aiment la culture, le spectacle, il y a des métiers. Et nous, en France, on leur dit, écoutez, vous aimez la musique, mais derrière l'artiste que vous voyez, il y a une centaine de métiers. Donc, à travers Immersio, déjà, vous allez en découvrir une partie. On va vous faire découvrir, on va vous permettre d'aller plus loin en faisant un stage, parce qu'on travaille avec les syndicats des industries culturelles, les syndicats du spectacle. Donc, on a établi un partenariat avec eux. Donc, dès qu'on a des jeunes qui sont intéressés dans les missions locales, dans les collèges, on leur permet de faire des stages dans des festivals, dans des salles de spectacle ou encore dans des boîtes de production de spectacle.
Alain, juste pour conclure et pour nous faire voyager, ouais, donnez-nous un ou deux exemples de d'imagerie culturelle en fait qui, ouais, utilise le numérique et qui innove.
Ah ben, en fait, il y a deux exemples. J'en ai un en Tunisie, donc avec un partenaire qui s'appelle Netinfo, ils ont créé un métaverse avec un musée virtuel pour faire revivre les mythologies, non seulement les mythologies, mais aussi les histoires fortes africaines qu'ils ont retranscrites dans un espace de métaverse. Donc ça, c'est en Tunisie. Ils sont très très bons sur le digital, sur tout ce qui est animation 3D et tout ça. Et puis il y a une autre innovation au Cameroun, donc c'est Kiro Games. Kiro Games, ils utilisent les mythologies africaines pour le coup, les traditions, les histoires anciennes qui revitalisent dans les jeux vidéo. Donc ils font des jeux mobiles, ils font des jeux sur portable, sur ordinateur, donc ce qui permet de faire revivre des histoires et d'utiliser ça et de faire rêver les jeunes. Et puis une troisième à Abidjan, donc ça c'est Bantou, c'est une start-up qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps et par un entrepreneur qui est assez incroyable. Il a créé un système de paiement qui permet justement aux acteurs de la culture d'avoir leurs propres moyens de paiement et finalement à travers un dispositif de détection de talent, il permet au public d'investir sur la production des œuvres des artistes sélectionnés et en fait en utilisant la carte de paiement, finalement cette carte devient le moyen de paiement également des créateurs aussi. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent en Afrique. Je vous parle même pas de la réalité virtuelle aujourd'hui, de la réalité augmentée en Kenya. Enfin bon, il y a de belles histoires, comme disait Jérôme tout à l'heure. Mais en fait, il faut s'arrêter. Il faut rentrer en relation, rentrer en discussion avec ces jeunes, parce qu'on parle de la jeunesse africaine souvent dans des termes assez difficiles. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est toute cette capacité d'innovation, toute cette fertilité. Et je pense que véritablement, ils sont en train de changer le monde et ils vont changer le monde.
Merci beaucoup Alain. Et c'était l'objectif aujourd'hui avec votre éclairage de découvrir ce que l'on ne connaît pas forcément ou sur ce sur quoi on n'a pas forcément une idée, qui est le reflet de la réalité. Merci Alain. Et pour terminer cette émission, une toute jeune start-up dédiée à l'apprentissage et à l'accès au travail numérique. Elle a été créée à Madagascar et elle est en train de s'ouvrir au monde entier. Et elle permet notamment de dénicher de jeunes talents qui sont issus des milieux défavorisés, mais aussi de répondre aux besoins de grandes entreprises en manque de codeurs. Et elle est représentée aujourd'hui par Adam Yassine, qui est le directeur des opérations de la société Saina. Adam, j'ai presque pitché toute la société, mais j'aimerais l'entendre avec vos propres mots. Saina, qu'est-ce que vous permettez de faire ?
Alors, on est sur trois volets. Saina Learn pour apprendre les compétences numériques, Saina Work pour travailler sur ces fameuses compétences numérique et Saina Hub pour pouvoir se réunir dans des espaces physiques connectés.
Donc elle s'adresse à de jeunes Africains ou vous êtes...
En effet, on a été créé à Madagascar, on s'adresse à des jeunes Africains qui sont en manque de compétences d'une part et qui ont envie de travailler sur ces compétences numériques d'autre part, donc on facilite l'accès au marché international via notre plateforme.
Donc en fait vous avez un double enjeu, vous formez, donc quiconque veut aller sur votre plateforme et s'auto-former, vous allez nous expliquer, peut le faire et après vous allez leur permettre de trouver un travail.
Exactement, c'est le rêve de réunir l'école et le travail dans une seule et unique entité. Donc c'est super, on est content.
Donc expliquez-nous comment cette histoire a commencé, parce que l'histoire est un peu magique, on va dire.
Alors on a la chance d'avoir une entrepreneur qui est à la tête de cette entreprise qui s'appelle Matina Razafi Maefa, qui est une entrepreneur de dingue, on essaie de la suivre. Elle a commencé dans une mezzanine avec 12 personnes, et avec ce succès-là, maintenant on est digitalisé, donc ça nous a permis d'aller conquérir l'Afrique.
Donc les jeunes Africains vont sur votre plateforme, après comment ça se passe? Ils sont pris en charge, ils ont un prof, ils regardent des tutos, ça se passe comment?
Ça se passe en trois étapes clés, tout simplement d'abord l'acculturation digitale, on apprend comment Internet fonctionne, comment un ordinateur fonctionne, comment on navigue en toute sécurité. Après on fait ce qu'on appelle le tronc commun, donc Discovery 101, pour apprendre les fondamentaux du numérique, HTML, CSS, JavaScript, un peu de noms compliqués. Et à partir de là, on choisit une spécialisation.
D'accord. Et ça se passe en combien de temps pour être formé?
C'est un abonnement à 9,90€ par mois. Et grâce à Orange, on a réussi à vendre la formation à l'heure à 0,60 centimes de l'heure. Et ça, on peut le faire quand on veut, où on veut, parce que évidemment, il y a des mamans qui sont sur la plateforme, il y a des personnes qui ont des situations difficiles, qui doivent ils doivent manager à la fois l'école et à la fois la vie dans le champ, par exemple, ou pour aider la famille.
Adam, ça m'interpelle et ça me pose une double question. Déjà, comme Jérôme l'exprimait, il n'y a pas forcément du réseau partout. Donc, quand on attaque une formation, on n'est pas assujetti à une coupure de réseau.
Exactement. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les Saina Hub. C'est des espaces physiques connectés où la communauté peut se rejoindre.
Ok. Et alors, la deuxième chose, c'est le prix, parce que le pouvoir d'achat est quand même inférieur. Est-ce que tout le monde peut s'offrir une formation?
On a la chance d'être la formation la plus accessible du marché aujourd'hui. Et grâce à Orange, on est devenu encore plus accessible.
D'accord. Je posais la question à Jérôme tout à l'heure. L'intelligence artificielle aujourd'hui qui permet de se former et surtout de coder, est-ce que c'est un frein par rapport à vos étudiants que vous êtes en train de former? Parce que demain, on nous dit que l'intelligence artificielle permettra de faire un prompt et d'avoir effectivement sa ligne de code écrite automatiquement. Comment vous vivez cette rupture technologique?
Aujourd'hui, les partenaires avec lesquels on travaille nous demandent qu'il y ait ce qu'on appelle « human in the room ». Il faut qu'il y ait un être humain opérateur malgré toutes les intelligences artificielles. Nous, en interne, on est 15, on opère sur 14 pays et on utilise l'intelligence artificielle partout. Également, nos étudiants ont accès à l'intelligence artificielle, d'une part pour l'aspect didactique et d'autre part pour l'aspect productif.
Pour conclure, vous nous dites qu'on peut gagner de l'argent avec Saïna. Quel type de revenus, à combien s'évalue un petit peu le montant que l'on peut prétendre gagner?
Alors sur un revenu, un SMIC malgache qui est environ à $75, nous on est aux alentours de 300 et ça peut monter jusqu'à 1500 en moyenne. Aujourd'hui, je vais vous raconter quand même une histoire qui manifeste ça. C'est l'histoire de Pat. Elle était étudiante. Elle a créé un Saïna Hub pour accueillir les étudiants de son quartier et elle leur a vendu des prestations de services. Donc elle a compris tout le modèle. En fait, elle utilise la structure Saïna pour pouvoir grandir.
Merci beaucoup Adam Yacine. Le mot de la fin, Jérôme Hénic. À travers les interventions que nous venons d'écouter, on voit qu'il faut vraiment changer notre paradigme de réflexion et de regard sur l'Afrique. Il y a de très très belles choses. On ne le sait pas assez. Quel est votre constat?
Oui, la scène tech africaine est bouillonnante. Les investisseurs ne s'y trompent pas et on a des entrepreneurs de talent dans tous les pays en Afrique qui font bouger l'Afrique et qui sont en train d'accompagner la transformation numérique du continent.
Jérôme Hénic, merci beaucoup et je rappelle le titre de votre livre, African Digital Champion 2023. Vous y découvrirez de magnifiques histoires d'entrepreneurs africains. Alain Bidjek pour le Moka et Adam Yacine pour Saïna. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Avec Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit.
Sud Radio Foix
103.7
Sud Radio.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, bring up my doorbell. I feel the love. Feel the love.
tonight, on for tonight, on for tonight.